Donc autour du solaire, il y a un terme dont on a pas mal entendu parler depuis une dizaine d'années. Vous connaissez sans doute le steampunk, donc une approche punk qui revisite l'ère industrielle, le cyberpunk qui est une approche punk qui revisiterait l'ère de l'informatique et des circuits électroniques. Et depuis un peu plus de 10 ans, il y a ce terme qui flotte un petit peu dans la société, qui est celui de solarpunk. Au départ, qui était sans doute un petit peu une coquille vide, avec plus une envie d'exister que réellement une communauté intense. Et année après année, ben voilà, ça a attisé un petit peu différentes en fait facettes d'une communauté d'acteurs, de penseurs, d'écrivains, de cinéastes. Et Martin Doucher va venir en fait nous présenter à la fois ce que lui a repéré dans l'activité de ce mouvement ouvert qu'est le solarpunk, avec un angle autour du cinéma de Miyazaki. Donc je laisse la parole à Martin.
Bah merci beaucoup à l'Académie du Climat et à toutes les organisations qui sont présentes aujourd'hui de me permettre d'intervenir sur cette thématique. Alors, pour définir un petit peu ce qu'est le solarpunk, en fait, c'est un mouvement artistique qu'on retrouve dans la littérature, dans le cinéma, dans les jeux vidéo aussi. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont été qualifiés de solarpunk, mais aussi dans l'architecture. Donc ça, c'est intéressant de voir que les architectes, ils s'inspirent en fait d'imaginaires solarpunk pour concevoir des villes durables. Et la grande question auquel répond le genre du solarpunk, c'est à quoi est-ce que ça ressemblerait en fait une société qui aurait réellement vécu une transition énergétique. Pour vous donner un peu une petite frise chronologique sur les grandes dates du solarpunk. Donc le terme, il apparaît en 2008 sur un forum qui s'appelle Republic of the Bees. Et en 2012, vous avez la toute première anthologie du solarpunk qui vient du Brésil et qui a été traduite ensuite en anglais. On verra ça tout à l'heure. Et en 2014, vous avez une artiste qui réalise un premier visuel solarpunk, donc ce que vous voyez à droite. Et le solarpunk, en fait, au départ, il s'est vraiment développé sur des forums de discussion sur le net. Donc ça s'est vraiment construit dans les marges, en fait. Et ensuite, ça s'est institutionnalisé progressivement. Vous avez en 2019 le manifeste solarpunk dont je vous donnerai quelques grands principes tout à l'heure. Et vous avez justement l'autrice dont je vais vous parler, Becky Chambers, qui en 2022 obtient un prix pour un psaume pour les recyclés sauvages. Et donc là, on a une œuvre solarpunk en littérature qui fait autorité sur le sujet. Donc là, c'est l'arrivée du solarpunk dans la science-fiction institutionnelle. Voilà. Pour vous parler un peu de comment, en fait, pour comprendre le solarpunk, il faut décomposer le mot. Donc solar, vous en doutez, hein, ça vient du latin solaris, ça définit le soleil, mais en fait, par dérivation, ça renvoie à un imaginaire qui est associé à l'utopie, à un imaginaire positif qui est tourné aussi vers les énergies renouvelables, donc notamment l'éolien et le solaire, et les low-tech. Donc un usage raisonné des technologies en opposition justement au high-tech. Le punk, alors là je vais vous lire un passage du manifeste du Solar Punk qui le définit très bien. Le punk désigne la rébellion, la contre-culture, le post-capitalisme, le décolonialisme et l'enthousiasme. Il s'agit d'aller dans une autre direction que la conventionnelle qui est de plus en plus alarmante. Donc c'est pour ça que dans le solarpunk, vous allez retrouver beaucoup d'idées associées à la décroissance, à l'anarchisme au sens municipalisme libertaire, de lutte contre les inégalités, de progressisme, d'abolition, de discrimination. Dans la présentation juste avant, on vous expliquait que les imaginaires énergétiques, ils étaient vraiment tournés vers la domination. En fait, justement, le solarpunk, lui, vise une émancipation, et du coup, une émancipation qui est associée à l'imaginaire des énergies renouvelables. Donc, il y a vraiment la fin de toutes les formes de domination, comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que les personnes, elles sont pas uniquement encouragées à avoir un plaisir esthétique, artistique, en lisant ou en regardant du solarpunk, elles sont vraiment invitées à changer la société. C'est-à-dire, y a un chercheur de l'ADEME qui s'appelle Jules Collet, qui a fait un mémoire sur les imaginaires. Il parle de préfiguration, c'est-à-dire que ces œuvres, en fait, elles préfigurent notre avenir. Et là, l'idée, c'est que, en fait, ce soit comme des guides, une utopie, en fait, une ligne d'horizon vers laquelle on aboutirait. Donc, ça peut se faire à de plus petites échelles. Donc, soit par exemple dans une agriculture de subsistance, hein, le capitalisme, il a séparé la production de la consommation, c'est de retrouver cette dimension-là dans notre vie de tous les jours, de créer aussi des éco-villages, notamment à l'aide de la permaculture, mais aussi à une échelle beaucoup plus collective, c'est-à-dire de donner une plus grande importance aux énergies renouvelables dans notre société, de permettre tous les changements structurels qui sont nécessaires pour aboutir à ce changement, mais comme par exemple l'agroécologie, l'urbanisme durable et les communautés d'énergie renouvelable. Pour vous parler un petit peu du manifeste Solarpunk dont je vous parlais, j'ai pas pu vous mettre tous les grands principes parce qu'il y en a 22 et on n'a pas le temps de lire les 22 principes. Je vous ai fait une petite sélection, alors c'est vraiment subjectif, hein, c'est dans ceux qui me paraissaient importants de relever. Le Solarpunk qui va incarner une vision de l'avenir qui incarne le meilleur de ce que vit l'humanité, donc notamment un monde post-pénurie, post-hiérarchie et post-capitalisme. Et c'est aussi important parce que il y a effectivement beaucoup de débats sur ce qui est solarpunk et ce qui ne l'est pas. Et il faut quand même rappeler que dans le manifeste, on nous dit que le solarpunk, c'est pas un genre qui est figé. Il y a l'idée qu'en fait, il y a aussi plein de pays qui se sont immergés dans cet imaginaire et que donc on n'amène pas une vision unique du genre. C'est pas le manifeste, c'est pas une liste de cases à cocher à tout prix, mais c'est une grande direction d'ensemble et ensuite on peut inventer de nouvelles formes à travers tout ça. D'ailleurs, le solarpunk va aussi reconnaître que la science-fiction, ce n'est pas uniquement un divertissement, mais c'est une forme d'activisme en tant que tel. Donc je vous parlais de préfiguration tout à l'heure, on retrouve vraiment cette définition là. Il y a aussi une idée qui me semble assez importante, c'est que souvent on parle beaucoup d'énergie renouvelable, d'esthétique dans le solarpunk, mais par rapport à toutes ces histoires de domination dont je vous parlais, il y a aussi l'idée qu'on dépasse une simple tolérance et qu'on est dans une forme de compassion, une forme d'empathie, donc ça on en reparlera chez Miyazaki parce que c'est très présent, notamment dans un film qui s'appelle Nausicaa de la vallée du vent. Et je vous ai mis une liste de quelques inspirations, c'est-à-dire que dans le manifeste, il y a des exemples qui sont cités d'inspiration esthétique. Donc on a par exemple l'âge de la voile et le mythe de la frontière des années 1800. La réutilisation créative d'infrastructures existantes, parfois post-capitalistes, contemporaines, étranges. Une technologie appropriée, donc là je vous parlais des low-tech. Et on parle aussi beaucoup de l'art nouveau et de Hayao Miyazaki. Donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait Hayao Miyazaki c'est à la fois une inspiration esthétique, mais on peut aussi qualifier l'œuvre en tant que telle de solarpunk par les valeurs qui y sont véhiculées. Et je vous ai mis le tout dernier principe que je trouve assez beau. Le manifeste se conclut en disant « Nous ne sommes plus des chefs suprêmes, nous sommes des soigneurs soigneuses, nous sommes des jardiniers jardinières ». Alors, quand je vous ai mis la chronologie, je vous ai expliqué qu'il y avait eu un premier recueil en 2012 qui vient du Brésil et qui a été traduit en anglais en 2018. Alors ça, quand vous vous renseignez un peu sur le solarpunk, ce manifeste, il est cité absolument partout. Sauf qu'en fait, quand on creuse un peu, parce que souvent les gens qui le citent ne l'ont pas lu, ce qui est un petit peu problématique, parce que en fait, quand on...
Ouais. Je suis désolé, monsieur. Le format qui est proposé ici, c'est d'avoir des interventions de 25 minutes comme ça. Après, les intervenants sont disponibles pour discuter dehors, à la sortie et tout sans souci. Mais je vais vous demander d'essayer d'arrêter d'interrompre les intervenants si je peux me permettre, parce que voilà, tout le monde aimerait bien suivre les interventions. Et ça n'empêche pas d'en discuter après. Vous pouvez avoir des désaccords, on peut en débattre, il n'y a aucun souci pour ça. Mais simplement, si vous voulez bien juste respecter les intervenants qui viennent pour présenter. Merci beaucoup.
Donc, je vous expliquais qu'en fait, ce manifeste, il est cité un peu comme le cœur du solarpunk, mais que quand on creuse, on se rend compte que, quand on va vraiment dans les thèmes de ce recueil, il est assez éloigné du solarpunk. Il est d'ailleurs considéré comme, c'est une citation, hein, très branlant par le traducteur lui-même. Et il y a un chercheur qui s'appelle William Rees qui a travaillé sur le solarpunk. Et en fait, il explique que ce recueil, en fait, il est justement, il n'a rien à voir avec les valeurs qui sont véhiculées par le mouvement, parce qu'en fait, il se rapproche de façon idéologique du cyberpunk. En fait, c'est-à-dire que là, on vous présente un futur dans lequel les énergies renouvelables sont dominées par les multinationales. Il y a un cynisme qui est omniprésent, une vision pessimiste de la nature humaine qui serait égocentrique. Et donc, en fait, là, on retrouve des caractéristiques du film noir et notamment du cyberpunk. Donc, en fait, vous voyez que en fait, c'est un genre qui a du mal quand même à se trouver une incarnation, parce que justement, en fait, les œuvres un peu qu'on présente en fait comme l'origine, en fait, n'en font pas vraiment partie. Je vous ai mis l'écueil à éviter, trop de solar et pas assez de punk, parce qu'en fait, ça, c'est le souci des genres qui peuvent être multiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être récupérés politiquement. Ça peut devenir une récupération marketing. Donc, par exemple, le cas dont je vous parlais tout à l'heure, le cas Dear Alice, en fait, c'est une pub. Je ne peux pas vous la montrer parce que là, on n'a pas suffisamment de temps. Mais en fait, si vous tapez sur YouTube Dear Alice, vous allez tomber sur une magnifique séquence où vous retrouvez en fait tous les codes du solarpunk. Donc le travail, il est formidable. Et en plus, pour la petite anecdote, pour cocher toutes les cases, ils ont demandé à Joe Hisaishi de faire la musique, qui est le compositeur de Miyazaki, donc dans la pub. Et du coup, j'en arrive au fait que c'est une pub. Et en fait, à la fin, on vous dit c'est une pub pour une marque de yaourt. Donc en fait, vous voyez bien que le solarpunk, il est dans son origine anti-pub, post-capitalisme et j'en passe. Vous avez aussi souvent des imaginaires qui sont très techno-solutionnistes, c'est-à-dire que en fait, comme on s'appuie sur des technologies avancées tournées vers les énergies renouvelables, il y a parfois aussi des imaginaires très justement dans cette idée que la technologie va nous sauver, et en fait on est tourné vers des imaginaires très high-tech, alors qu'en fait le solarpunk véhicule une idée du low-tech, hein. Dans ça. Et enfin, une troisième et ultime dérive qui est celle de l'écofascisme. Ça a été étudié aussi par des chercheurs. En fait, c'est que notamment toute l'esthétique associée à l'harmonie avec la nature, elle peut être utilisée à des fins d'exclusion et de nationalisme. Il y a eu deux cas. Alors par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Elon Musk, il a une entreprise qui s'appelle SolarCity. Donc vous entendez quand même le solar, donc il utilise dans cette idée-là. Et l'image que je vous ai mis là en bas à droite, en fait c'est une image qui a été générée par une intelligence artificielle était commanditée par l'Arabie Saoudite et l'État d'Israël. Et en fait l'idée c'était la bande de Gaza, on va la transformer en ce petit paradis. Donc vous voyez bien qu'il y a un projet délétère en fait derrière tout ça, et qu'en fait l'esthétique solarpunk, elle est récupérée politiquement de bien de façon, et qu'elle peut être utilisée pour anéantir des populations ou marchandiser en fait, faire du capitalisme vert. Maintenant, je voudrais vous parler de Hayao Miyazaki. Donc, comme pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous ai mis quelques dates. Il est né le 5 janvier 1941 à Tokyo. C'est un grand animateur japonais qui a fondé les studios Ghibli en 1985 avec Isao Takahata. Son père est ingénieur et notamment c'est lui qui a contribué à créer les courroies de transmission d'un avion qui s'appelle le Mitsubishi Zero. Et ces avions, c'est ce qu'on a appelé les tombeaux des kamikazes. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille de Miyazaki, elle s'est enrichie pendant la guerre, et que donc lui, il a porté cette culpabilité pendant très longtemps, et ça se retrouve beaucoup dans les films. Sa maman aussi, à Miyazaki, elle était atteinte d'une forme de tuberculose, c'est pour ça que vous voyez aussi beaucoup, et donc, dont elle en est morte, et vous retrouvez beaucoup de personnages de femmes qui sont atteintes de tuberculose et qui doivent aller se soigner, notamment dans des sanatoriums. Et ce qui est intéressant, je trouve, chez Miyazaki, c'est que, en fait, moi, au début, je pensais qu'il avait fait des études d'art graphique, et en fait, il a fait des études d'économie et de sciences politiques, et notamment, il s'est spécialisé en économie marxiste. Donc, ça se ressent bien dans ses films. Et donc, on retrouve un des thèmes principaux d'harmonie avec la nature, de l'importance de l'art et de l'artisanat, la difficulté de maintenir une éthique pacifiste dans un monde violent. Et je vais vous montrer un premier exemple. Miyazaki s'est beaucoup insurgé en fait contre le nucléaire, notamment après la catastrophe de Fukushima. En fait, les studios Ghibli ont refusé d'utiliser de l'électricité provenant du nucléaire. Et il avait fondé, Miyazaki, un magazine qui s'appelle Nepu, dans lequel il écrivait en fait beaucoup d'articles à dimension politique. Et il s'était justement là pris en photo avec ces petits panneaux où il y avait écrit « Non à l'énergie nucléaire ». Et par rapport au nucléaire, vous allez retrouver cet aspect dans deux films. C'est le château dans le ciel. Vous savez, quand il y a le château en fait, qui bombarde, hein, qui utilise cette énergie faramineuse qui est en son sein. On retrouve la catastrophe nucléaire, et on retrouve ça aussi dans Ponyo sur la falaise, quand la petite Ponyo, elle mélange les élixirs dans le laboratoire de son père, et elle déclenche en fait un énorme tsunami qui dévaste tout, parce qu'elle veut aller retrouver son ami Sosuke. Mais donc ça montre aussi ce qu'on est prêt à provoquer pour sustenter tous nos désirs. Et du coup, là, je voulais vous donner quelques éléments sur le film Nausicaa, qui va dans cet aspect-là. Alors, c'est intéressant parce que quand il est cité au niveau du solarpunk, en fait, on parle systématiquement de la même chose. On parle de l'utopie de la vallée du vent. Pareil, il y a deux utopies chez Nausicaa, et il n'y a pas que ça comme thème solarpunk. En fait, dans Nausicaa, vous avez tous ces petits moulins à vent en fait, qui fonctionnent comme ça. Donc on retrouve l'énergie éolienne qui est très présente dans le film. Notamment, Nausicaa, elle utilise le vent pour se mouvoir, elle a un planeur. Et en fait, le vent, dans le film, il n'arrête pas de disparaître et de réapparaître. Et en fait, ça, c'est un symbole de l'animisme. En fait, la disparition et l'apparition du vent, ça va symboliser la régénération de la nature elle-même. En fait, Nausicaa, c'est un film aussi qui est profondément sur la régénération de la nature. Et donc, vous avez une autre utopie, parce que en fait, dans Nausicaa, vous avez une forêt toxique. Ça démarre, c'est quand même assez dystopique, hein, Nausicaa. On vous dit que l'humanité, elle a été anéantie dans ce qu'on appelle les sept jours de feu, et qu'en fait, suite à cette guerre nucléaire, vous retrouvez en fait une forêt toxique qui dégage des spores, et si vous les respirez, bah, vous mourrez en fait. Et en fait, là, les humains, comme ils comprennent pas grand-chose dans le film, en fait, ce qu'ils espèrent, ils espèrent réanimer une technologie qui est hyper puissante, et ils espèrent brûler la foucaille, la forêt toxique. Et en fait, Nausicaa, ce qu'elle se rend compte, c'est que en fait, sous la foucaille, il y a une utopie naturelle. En fait, il y a cette zone minérale que vous voyez en bas, et en fait, l'air est pur. Et en fait, elle se rend compte que en fait, la foucaille, elle n'est pas en train de détruire l'humanité, elle est en train de réparer ce qui a été fait, en fait dans cette catastrophe atomique. D'ailleurs, s'il y a des férus d'histoire, c'est inspiré d'un cas réel. Hein, c'est ce qu'on a appelé la baie de Minamata dans l'histoire du Japon. C'est un des plus grands désastres écologiques. C'est qu'en fait, l'industrie japonaise avait tellement pollué les eaux qu'en fait, les animaux et les humains qui buvaient l'eau en mouraient de convulsions. Et en fait, une fois que les déversements industriels ils ont été interdits, en fait, la vie est revenue. Et Miyazaki s'est inspiré de la baie de Minamata pour justement en fait, imaginer cette foucaille qui se régénère. Alors, dans les principes du solarpunk, je vous parlais d'empathie, de compassion. Nausicaa, c'est un personnage qui est extrêmement empathique. Elle veut embrasser le vivant dans son ensemble. Et comment est-ce qu'on voit qu'elle est autant empathique ? Nausicaa, elle a la capacité d'entendre les pensées d'insectes géants qu'on appelle les omu. D'ailleurs, omu, ça vient de deux mots, ça vient du om, du bouddhisme, et ça vient de worm en anglais, les vers que vous retrouvez dans Dune, l'univers de Dune par exemple. Et donc elle est capable d'entendre leurs pensées, de se mettre à leur place et justement de pouvoir les apaiser. Nausicaa, elle n'est pas uniquement hyper empathique, c'est aussi une très grande scientifique. Vous la voyez récolter des spores dans le film, vous la voyez étudier dans son laboratoire, et donc elle comprend en fait la foucaille. Et ce qui est intéressant, c'est que Nausicaa, elle utilise pas mal de low-tech, parce qu'en fait, elle arrive à chaque fois, un tour de force, c'est qu'elle arrive à faire en sorte que les insectes géants se calment. Et en fait, elle empêche des bains de sang par des low-tech, elle a un sifflet par exemple qu'elle utilise pour attirer les insectes et les emmener loin, et en fait elle arrive à gagner des batailles sans jamais recouvrir à une forme de violence. Et c'est vraiment intéressant ce personnage-là. Et je vais terminer avec le Becky Chambers, donc, du coup, qui est vraiment un exemple type de littérature solarpunk qui fait désormais autorité. Elle dit une phrase très belle dans une interview qu'elle a donnée pour le Seattle Times. Elle dit « Je pense vraiment que l'espoir est punk. Être punk, c'est défier les racines de la société dans laquelle vous vivez. C'est fondamentalement une question de rejet et de défi, mais aussi de célébration. Je pense que l'espoir est vraiment un acte radical dans les temps que nous vivons. » Et donc, pour vous analyser un petit peu tout ça, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui fait que l'écriture elle est solarpunk. Donc là, moi j'utilise deux grilles de lecture de chercheurs sur le solarpunk, celle de Yannick Rumpala, qui est un chercheur en sciences politiques qui s'est spécialisé sur les liens entre politique et science-fiction. Et en fait, quand il étudie le solarpunk, il a cette phrase, en fait, il dit « le solarpunk, c'est quand l'extractivisme disparaît ». Et justement, l'idée, c'est que le solarpunk change les bases énergétiques de nos sociétés et qu'on libère la nature des exploitations qui sont dues à notre système économique. Je vais vous lire une citation pour que vous voyez comment ça s'illustre. C'est à la page 32. Il y a écrit « Là, creuser était un acte de violence parce que cela dérangeait toute cette vie. Une violence parfois nécessaire, comme le montraient les oiseaux et les moufettes blanches qui grattaient l'humus d'une patte impétueuse en espérant se remplir le ventre. Mais les habitants humains de cette forêt avaient une conception étroite de la nécessité et ne dérangeaient le sol qu'à regret. » Un autre élément qui est important, je pense, de mentionner, c'est que c'est la représentation des villes, en fait, chez Becky Chambers, parce qu'elles sont libérées du flot incessant de véhicules. Il y a l'idée de ralentir. C'est des villes qui sont pleines de verdure, remplies d'immeubles végétalisés. Là, je vous redonne une autre citation. « La ville était belle, vraiment belle, une haute merveille architecturale, tout en courbes brillantes et lumières colorées, reliée par l'entrelac des rails aériens et des allées piétonnes, couverte de feuillages qui débordaient des balcons et des terre-pleins. Chaque inspiration charriait un parfum d'épices, de nectar, de linge qui séchait dans l'air pur. La ville était un lieu paisible, harmonieux, prospère, une perpétuelle harmonie où l'on créait, fabriquait, grandissait, essayait, riait, courait, où l'on vivait. » D'ailleurs, dans la citation que je viens de vous donner, vous avez un effet de synesthésie En fait, une synesthésie, c'est une figure de style en littérature, c'est quand vous convoquez les sens, en fait, tous les sens. Vous avez la vue, le toucher, l'ouïe, et j'en passe. Et vous retrouvez en fait tout ça, donc c'est très, très charnel, hein, cette écriture. Et on a aussi William Rees, dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, dans son article sur le solarpunk, il nous dit que en fait, le solarpunk recrée un imaginaire d'abondance. Et que on est quand même, enfin, vous l'entendez sûrement, hein, mais on parle beaucoup de backlash écologique. On n'arrête pas de parler d'écologie qui est punitive. C'est un discours qu'on entend beaucoup. Et en fait, on nous dit que les imaginaires de décroissance, par exemple, ce serait une longue suite de renoncements. Ça nous conduirait à la pénurie et j'en passe. Et en fait, justement, la journaliste de Blast, Paloma Moritz, elle disait qu'en fait, bah, ces imaginaires-là, ils permettaient de penser de nouvelles formes d'abondance. Donc en fait, au lieu de passer par l'idée du renoncement, on allait montrer qu'on allait gagner bien plus, en fait, à travers la mise en place de ces sociétés. Et ce que nous dit William Rees, c'est qu'en fait, bah, le soleil et le vent, dans le solarpunk, ils paraissent inépuisables, en fait. En fait, on les voit partout. Ils sont présents en permanence. Vous avez donc le robot Omphale que je vous ai mis là en bas. C'est le robot qui est dans Becky Chambers. Il a des panneaux solaires dans le dos. Et il fonctionne aussi, non pas dans une logique capitalisme, mais de biomimétisme. C'est vraiment un concept hyper important. Et le dernier élément, enfin, je ne vous ai pas mis toutes les analyses, hein, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais j'ai essayé de vous récapituler des points clés. En fait, comment est-ce qu'on voit même que la décroissance, elle est au cœur du texte? C'est qu'en fait, la narration, elle devient elle-même décroissante. C'est-à-dire, en fait, on est dans l'œuvre de Becky Chambers, on n'est pas dans une frénésie d'action. Il n'y a pas des cascades, des voitures qui volent et j'en passe, et 15 meurtres à la suite. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus posé. Et en fait, on ralentit en même temps que... Enfin, on s'adapte en fait au rythme du récit qui nous transmet l'idée qu'il est nécessaire de ralentir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, dans la première page du roman Un psaume pour les recyclés sauvages, vous avez cette adresse en fait au lecteur ou à la lectrice qui est pour vous qui avez besoin de souffler. Et d'ailleurs le tome suivant, hein, ce sera pour vous qui ne savez pas où aller. Voilà. Oups. Pourquoi ça marche pas? C'était une slide de remerciement. Et j'avais... Ah, oups. Du coup, moi, c'était une slide pour clôturer. Ce que je voulais juste vous expliquer, moi, du coup, je suis conférencier, j'interviens avec une micro-entreprise qui est l'Atelier des Possibles. Et en fait, moi, je traite des sujets sur les imaginaires. Et donc là, si vous avez apprécié un peu le contenu que je vous ai exposé, il va y avoir des prolongements. C'est-à-dire que là, la semaine prochaine, je donnerai deux conférences en ligne, une sur Miyazaki, la nature chez Miyazaki, une sur l'empathie, qui est le sujet de mon mémoire, donc je vulgarise la littérature sur l'empathie, et sur les imaginaires énergétiques, qui durera 2 heures. Donc là, moi, j'ai pas eu le temps de vous parler de la sociologie de l'énergie, hein, ça a été esquissé dans la présentation précédente, mais là, en fait, pareil, sur Becky Chambers, on aura une analyse vraiment complète des deux tomes. Donc, voilà. Et si ça vous intéresse de suivre les actualités de l'atelier, vous avez les QR codes. Et pour toute demande, vous avez mon mail. Voilà. Merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a des petites questions.
Merci. Merci, Martin.
Si vous avez des questions, évidemment, après, on a une dernière intervention, il y aura le cinéma. Mais évidemment, on peut vous adresser à...